Bonne année, bienvenue dans Intermédiaire en Escapade, l'émission indépendante qui renouvelle vos sources d'informations locales. Merci à vous d'être là, même si c'est par hasard. En 2026, les médias locaux indépendants et les radios locales demeurent des acteurs essentiels de l'information. On en compte près d'un millier dans l'Hexagone. Ancrés dans les territoires, leurs journalistes travaillent au plus près des habitantes et des habitants, au contact direct du réel, du quotidien, du vécu. Pour Altermédie, les frontières de l'information locale ne se résument pas au découpage territorial administratif. De Toulouse à Marseille, notre rédaction couvre des territoires vivants, traversés par des histoires, des parcours, des expériences multiples. Donner la parole à celles et ceux qui font vivre ces territoires, et notamment à des personnes aux nationalités diverses, c'est faire entrer dans l'espace public leur regard sur le monde. Et c'est aussi entendre leur vécu international de l'actualité, des récits ancrés dans l'expérience qui dépassent les lectures trop étroites de l'information internationale, souvent filtrées par les priorités de la politique nationale en vigueur. En partant du local, Altermédie revendique une autre manière de raconter le monde, plus attentive aux voix minorées, plus inclusive et participative. Et pour débuter cette année qui s'annonce politiquement très mouvementée, nous dédions cette émission à l'imaginaire comme lieu de création et de signification politique. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste argentin Horacio Peralta depuis son exil en 1977, année où il a fui la dictature argentine. Horacio combat la machine totalitaire à travers ses créations. Nous évoquerons ses choix et son histoire et l'actualité brûlante qui enflamme aujourd'hui l'Amérique latine. On parlera aussi du faire ensemble. Où en est le collectif aujourd'hui? C'est le thème du dernier Altermédie Mag. Face à la montée de l'individualisme, Altermédie interroge la notion de collectif entre promesses, tensions et réalités concrètes. Des EHPAD au monde de la création, en ville comme en milieu rural, nous prendrons la direction de Causse de la Selle à la rencontre de Claire Pitot, cofondatrice de Bouillon Cube, qui fait vivre depuis 20 ans un tiers-lieu rural engagé et nous parle de ses valeurs et de ses fragilités, notamment financières. Nous donnerons la parole aux artistes pour questionner le mot collectif, ses usages, ses risques et ceux qui tentent de changer les choses en sortant du cadre. Le sculpteur Jean-François Rigaudin nous dira ce que lui apporte la dimension collective. On a le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui Horacio Peralta. Bienvenue dans Altermédie en Escapade, Horacio. Vous êtes marionnettiste, auteur, poète, réalisateur de films d'animation. Face aux ravages du totalitarisme que vous avez côtoyé de près, vous avez choisi comme arme la création. On vous accueille en tant que voisin et citoyen du monde qui a pris pied dans les Cévennes. Vous êtes là depuis longtemps dans les Cévennes, Horacio? Bonjour.
Bonjour, bonjour Jean-Marie, depuis 5 ans bientôt.
Et comment est-ce que vous avez commencé à jouer avec les marionnettes, puisque c'est un des arts que vous pratiquez avec excellence?
Ben merci. Ben les marionnettes, en fait, je me suis aperçu, quand je le faisais déjà, en faisant un peu de mémoire, que j'ai eu un cadeau bien petit, des marionnettes que m'avait apporté mon père, d'un voyage qu'il avait fait en Europe. C'était des très belles marionnettes, il avait acheté ça à Prague, et avec son castellet et tout, il avait apporté ça à Buenos Aires. Mais c'était des marionnettes très fragiles que j'ai vite cassées, mais j'avais gardé une bonne impression sur moi. Et puis j'ai eu la chance d'aller à l'école, à une école expérimentale en Argentine. C'était une période où on avait une bonne école. Après, les militaires viennent et les ferment. Et puis, quand il arrive un gouvernement un peu plus décent, invente quelque chose de bien par rapport à l'éducation, par rapport à la culture. Enfin, tout refleurit, mais ça ne dure pas longtemps. Et donc, à notre école aussi, on avait une troupe de théâtre. On avait un théâtre de marionnettes. Et je crois que le goût du théâtre d'abord et a commencé là, à l'école tout simplement, parce que je faisais partie du groupe de l'école Et quand j'ai fini l'école, avant de faire mon bac, la prof de théâtre m'a proposé de rentrer dans sa troupe. Ma famille m'a dit non, mon père était peintre, donc il connaissait bien ce que c'était de vivre de l'art. Non, il faut que les études d'abord, donc le bac d'abord. Et donc j'ai arrêté pendant 3 ans mon idée de faire du théâtre. Mais quand j'étais en troisième de mon bac, j'ai eu l'occasion aussi de reprendre mes cours de théâtre. Et là, j'ai fait 7 ans d'études de théâtre. Là-dedans, je joue une pièce de théâtre pour enfants. Il y avait un marionnettiste dedans. Et c'était le rôle que m'était attribué. Donc là, je me suis rappelé d'une petite marionnette. J'ai fabriqué des semblables. Et j'ai, à l'étonnement de tous mes copains de théâtre, on a découvert que les marionnettes étaient magiques. Qui nous faisait rire, qui nous surprenait, qui faisait des choses que nous, en tant que comédiens, on n'était pas capables de faire, avec cette impunité, avec cette spontanéité. Et voilà. Tout ça, évidemment, en parallèle avec la politique, j'ai dû quitter l'Argentine. Et en quittant l'Argentine, en me retrouvant en Amérique centrale, et j'ai trouvé une voie plus rapide pour pouvoir travailler en faisant des marionnettes. Donc j'ai fabriqué des marionnettes et vite fait, j'ai commencé à travailler comme marionnettiste.
C'est intéressant ce rapport que vous faites et que vous avez vécu entre le théâtre et les marionnettes en étant acteur de marionnettiste, puis vous devenez marionnettiste. Et ces deux arts qui sont quand même en relation avec la politique, c'est en sous-texte dans ce que vous venez de dire.
Il y a toujours la politique dedans.
Et cette émission, on va en parler de la politique, puisqu'on va essayer de travailler sur ce rapport entre politique et imaginaire. Et la différence peut-être entre le théâtre et l'art de la marionnette, c'est que quand on fait de la marionnette, c'est un art total. On crée l'ensemble, l'univers, la musique.
En cessant des démiurges.
Et c'est aussi un art qui invite à la mobilité.
Ça permet facilement la mobilité, effectivement.
Ça vous a conduit où, alors, justement?
Ouf, ce serait long à dire. Parce que j'ai eu, déjà, toute l'Amérique latine, toute, les États-Unis aussi. J'étais en Asie, j'étais en Afrique, toute l'Europe, évidemment. J'étais en Union soviétique. Là, il y a peut-être une anecdote, ce serait long à dire, hein, mais j'ai commencé à faire une création entre le gouvernement de France et l'Union et la Russie. Bon, mais ça faisait partie de l'Union soviétique à l'époque de Gorbatchev. Et on avait créé une troupe mixte. Et donc, les marionnettistes, il y avait 4 marionnettistes soviétiques, mais après, ils devaient venir tous à Paris, continuer la tournée, et c'est là que l'Union soviétique tombe. Et ces 4 marionnettistes appartenaient à 4 pays différents. Donc, ils n'ont jamais venu à Paris, il n'y en a eu que 2. Et voilà, ce spectacle a tombé aussi dans l'eau comme l'Union soviétique.
L'histoire intervient à un moment.
J'ai beaucoup joué pour les ministères d'affaires étrangères, pour le ministère de la culture, pour le ministère de l'éducation. Ils m'ont envoyé un peu partout.
Et quand vous arrivez en France, qu'est-ce que vous faites avec les marionnettes?
Alors, j'ai fait plus ou moins ce que je faisais en Amérique centrale. Parce que, il faut dire que j'étais en Amérique centrale et là, un philosophe, un mathématicien, qui était un peu mon gourou, parce que son credo était l'amour. Il défendait la théorie de l'infini, mathématiquement, mais avec des exemples d'amour et de mort. C'était un personnage incroyable, il s'appelait José de Jesús Martínez. Et lui, il m'a dit, tu dois aller à Paris, faire des marionnettes, là, tu pourras bien gagner ta vie. Et je te trouve une place, il habitait à Panama. Je te trouve une place dans un bateau bananier, invité par le gouvernement du Panama. Et voilà, tu vas à Paris, tu t'installes dans une place et tu feras des marionnettes, les gens vont te donner de l'argent. Et donc c'est comme ça qu'un jour je me suis retrouvé à bord d'un bateau bananier et c'est comme ça que je suis arrivé en Yougoslavie. À l'époque c'était la Yougoslavie. Et un peu plus tard, je me suis retrouvé à Paris à faire des marionnettes très simples, très basiques. Et c'est à Paris que j'ai vraiment appris avec des grands maîtres, Philippe Gentil, et puis un autre marionnettiste que j'aime beaucoup, Auvergnat, qui s'appelle Burattini, et que j'ai appris toutes les possibilités techniques que la marionnette pouvait offrir. Bien sûr, j'avais 7 ans d'études de théâtre, et c'est de ces mariages, je crois, qu'est né un peu mon langage. Dans mon langage, il y a aussi mon compromis à faire de la culture, donc bien ce que je sais faire, des marionnettes, un outil en tant que travailleur culturel, voilà.
Et pour tous, parce que je sais que vous avez aussi travaillé dans le métro, notamment.
Ben voilà, mais après, il y a Lazare qui joue aussi. Il faut dire que moi, une des revendications en tant que travailleur de la culture, donc, c'est de vivre de mon travail, et mon envie. Et donc, je trouve par hasard ou pas, et toujours un chemin pour essayer de vivre de mon travail. Et c'était l'hiver 78-79, il a fait très froid à Paris, la Seine était congelée, donc je ne pouvais plus jouer dans la rue. Et c'est là qu'en voyageant dans le métro, j'ai aperçu ces deux bars parallèles pour soutenir quand les wagons, la rame bouge trop. Je me suis dit, entre ces deux bars en métal, j'ai mis un tissu et voilà mon nouveau castellet de marionnettes. J'ai déjà un public assis en attendant le spectacle. C'était pas évident, hein, mais j'ai fini par le faire et le Jean qui était au départ un peu « qu'est-ce que c'est que ça ?» ils avaient tous la banane et applaudissaient. Il y a tonnes d'anecdotes magnifiques. J'ai eu un bon, effectivement, accueil. Et puis j'ai gagné ma vie très bien. Voilà.
Qui refuserait un peu d'amour dans le métro ? Que
corazón, mi corazón.
San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Mi corazón,
mi corazón,
je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer?
mañana.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio.
Manu Chao, me gusta tout. On passe à une séquence d'actualité. Quand Nixon, dans son message de Noël en 1969, a annoncé à la nation « Nous ne sommes pas en train de bombarder le Cambodge », tout le monde a compris que c'était une manière subtile d'annoncer le bombardement du Cambodge. Quand Bush a bombardé l'Irak et dit « Ce n'est pas à cause du pétrole », nous avons su que c'était à cause du pétrole. Quand Clinton met devant Milosevic un accord de paix, « Signez sur la ligne en pointillé, sinon nous vous bombarderons », il nous livre la bonne interprétation de cette paix, la guerre. Quand Trump fomente un coup d'État au Venezuela, accusant le président en exercice d'exporter aux États-Unis de la drogue, on saisit clairement qu'il entend vassaliser toute l'Amérique latine. Horacio, vous qui êtes d'origine argentine, quel regard vous portez sur les événements qui viennent d'arriver au Venezuela, l'intervention américaine à Caracas?
Les cas de Venezuela, c'est le cas de toute l'Amérique latine, qui prend une forme peut-être un peu différente, un peu plus brutale, un peu plus sincère peut-être. C'est la mainmise de l'empire américain sur toute la partie sud de ces pays-là. Voilà. Si ce n'est pas une forme, c'est une autre. Mais c'est quelque chose qui dure depuis un siècle, depuis plus d'un siècle. Je crois que le premier, c'était Cuba. Je ne me souviens pas très bien. Je n'ai pas les dates, mais c'est une litanie des coups d'État, des interventions. En Amérique centrale, la fruit company, comme s'appelait les bananiers, l'huile des palmes. À l'époque, ils envoyaient des pirates, des mercenaires. Mais c'est l'histoire de l'empire américain, c'est la conquête de l'Ouest qui continue. C'était le Mexique d'abord. Il ne faut pas oublier qu'ils ont piqué toute la partie nord du Mexique, tout ce qui est Texas, toutes ces parties de la Californie. C'était le Mexique, et c'est là où se trouve aussi le plus grand puits de pétrole, gisement de pétrole américain. Et donc c'est une litanie, par des moyens pas sains de garder ma mise sur le territoire parce qu'il y a des ressources.
Donc sur l'action qui s'est passée ce week-end, vous pensez que le Venezuela, il était dans le collimateur, Trump avait dit, etc. Vous pensez qu'il peut y avoir un effet de domino, notamment à Cuba, parce que Cuba est quand même à bout de souffle.
Il l'annonce, ce serait pas étonnant, parce qu'il est déchaîné. C'est M. Trump, il est déchaîné, il est capable de tout, il sent qu'il a les pouvoirs. Il a l'outil que c'est son pays hyper armé et hyper infiltré dans les couches de latino-américains soudoyés.
Il a le pouvoir, mais quand même en dépit du droit international.
Complètement, évidemment.
Et
heureusement, même aux États-Unis, il y a des voix qui s'élèvent.
Il y a des voix qui s'élèvent, effectivement, mais on a l'impression que en Occident, c'est un peu timide, non?
Occident, on dit l'Europe, on dit la France, parce que l'Espagne a plus ou moins une bonne position. Ici, j'entends des choses vraiment très mitigées. Nous, on a même notre passé lourd vis-à-vis de l'Afrique. Il ne faut pas négliger notre passé qui n'est pas si lointain que ça. Et donc, je trouve ça honteux. Et puis, c'est honteux vis-à-vis de nous-mêmes pour notre propre intégrité. Parce que ce qu'il fait les États-Unis avec nous-mêmes, c'est pas drôle non plus. C'est pas très beau, hein. pas très bon depuis très longtemps. Moi, je me souviens, je me souviens plus, c'était les années 80, j'étais très enthousiasmé par notre satellite genre GPS. C'était Galilée ou Copernic ? Galilée, je crois.
Je pense que c'est Galilée.
Galilée. Ouais. Galilée. Les États-Unis sont venus nous dire, pas des Galilée, des GPS. Et nous, ici, on a renoncé au Galilée. Et c'est seulement, ça existe vraiment. Mais c'est pour certains militaires, c'est très restreint, et c'est les États-Unis qui le restreint.
Ouais, mais c'est sûr que le soutien à demi-mot, par exemple, du président, de notre président français, qui ne met pas du tout en cause le fait d'avoir outrepassé le droit international, c'est quelque part aussi, comme vous dites, c'est se tirer un peu d'une balle dans le pied, parce que demain, c'est le Groenland, par exemple.
Ah, bah, absolument. Et puis, on met des excuses à Venezuela, que c'est gouvernement ci, que c'est gouvernement ça, que peut-être si, hein, c'est comme ça. Je me demande quel gouvernement est blanc comme neige dans le monde. Et s'il y a un gouvernement blanc comme neige dans le monde, a une possibilité de survivre face à ces pouvoirs des États-Unis. Il faut parfois prendre des décisions un peu brutales, peut-être des fois pas très, très acceptables. Mais on a en face un des prédateurs sans pitié, capable de faire les pires des exactions. Donc, il faut se protéger.
Et sur le continent sud-américain, quand même, il y a, dans les années 90 jusqu'à 2010, il y avait eu une prise de pouvoir, un petit peu une remontée en tout cas de la gauche populaire, voire populiste à l'époque, mais populiste pas forcément comme on l'entend ici. Et puis là, on a l'impression qu'il y a une droitisation où les pays tombent les uns après les autres. Comment vous analysez ça ?
C'est compliqué. Une des raisons, c'est les milieux de communication. C'est la mainmise sur les milieux de communication. La politique de manque d'éducation, de manque de culture, de manque d'aider aux gens d'avoir une pensée critique au niveau des masses à chaque fois qu'ils peuvent. Et effectivement, il y a le rôle de ces nouvelles églises évangélistes. En Argentine, concrètement, je connais mieux, hein. Los pastores, ils ne se privent pas de parler ouvertement en faveur ou contre le gouvernement populaire. Parce qu'il faut dire, ici on parle de populisme, on parle de gouvernements un peu démagogiques. Ce sont des gouvernements qui défendent leurs intérêts. Leurs intérêts, parce qu'il n'est pas question non plus de cet aspect de la guerre froide, communisme ou impérialisme. Il y avait des gouvernements qui défendent leur propre territoire, des présidents qui défendent leurs propres intérêts. Et ces présidents-là, ils n'ont aucune chance de survivre. Les derniers grands exemples, c'était Lula au Brésil. Lula au Brésil était un prisonnier faussement accusé et par des juges qui maintenant sont en prison d'ailleurs. Et après, il est devenu président. Très populaire. Au Venezuela, il faut laisser faire. Au Venezuela, il y a un blocage avec Venezuela. Il est bloqué depuis une trentaine d'années, comme les Cuba aussi, comme sont tous les pays qui n'ont pas...
Les blocus.
Voilà, il y a un blocus. Et donc, évidemment, il n'y a pas de médecine. Bon, Cuba, justement, parce que c'est blocus, c'est une source de médecins pour le monde, parce qu'ils ont développé leur propre médecine avec leurs propres critères et ils sont devenus très bonnes. Mais c'est une île. C'est très difficile de se développer avec un empire à côté qui te l'empêche.
Donc, en même temps, les leaders de gauche d'Amérique latine qui portaient quand même un espoir pour la majorité de la population, ils ont quand même été victimes d'une tentation autoritaire, voire anti-pluraliste.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est là où c'est délicat, autoritaire, ça mériterait tout un programme. Hein. Mais j'étais il n'y a pas longtemps à Nicaragua. J'ai voulu aller voir parce que je connaissais, j'ai des gens que je connais là-bas, et à la plus mauvaise presse. La seule presse qui existe pour les Nicaraguas, elle est mauvaise, évidemment. Il n'y a pas une autre. On ne sait rien de ce qui se passe à Nicaragua. Il y a eu effectivement la mano dura, comme on dit. Hein. Il y a eu de ce que l'on peut appeler des exactions. Je me demande dans quel pays, déjà, n'importe lequel, il n'y en a pas. Déjà. Et puis, ces exactions, vous croyez que les gens de la CIA, ils ne font rien au Nicaragua? Vous croyez que combien ils sont? Combien de milliers, des dizaines de milliers de travail pour la CIA? Ben, bon, on parlait tout à l'heure des églises, les églises évangéliques. Il y en a aussi à Nicaragua, mais il y en a qui collaborent avec le gouvernement du Nicaragua. J'étais surpris parce que le reste de l'Amérique latine, c'est pas le cas. Ils ont un contre de tous les gouvernements progressistes, plus ou moins. Mais c'est pas toutes les églises non plus. Ce sont quelques-unes parce que quelques-unes font partie de ces infiltrations de la CIA. On peut parler des théories du complot, etc. Mais non, ils sont quelque part. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas des clémentines. Hein, ils agissent en fonction de leurs intérêts. Et donc, je me perds un peu, parce que c'est vaste, le sujet.
On peut rappeler aussi le rôle sinistre des églises en Argentine pendant la dictature.
Mais l'église a été divisée, effectivement, avec ceux qui baptisaient. Bon, moi-même, j'ai failli être balancé d'un avion. Moi, j'étais séquestré en Argentine. C'est pas que j'ai dû partir parce que j'étais comédien, je faisais un théâtre politique, c'est vrai, toute ma troupe a été enlevée. Et un de nos membres n'est jamais, on ne sait toujours pas où il est. Moi, j'ai eu la chance avec ma copine et puis un autre d'être libéré, mais j'ai dû quitter le pays. Mais j'ai failli être jeté d'un avion. Il y a eu 30 000 disparus en Argentine. Mais c'est l'histoire de l'Amérique latine. C'est les légions des disparus, d'assassinés, des coups d'État. C'est leur politique. Comme dit. Cette phrase-là, la disgrâce d'avoir cet empire en haut qui avec la force nous écrase.
Beaucoup de présidents d'Amérique latine sont en quête de légitimité, mais finalement, on peut se demander si le vrai problème, c'est d'arriver à construire un État des institutions qui fonctionnent. Et en fait, ils n'y arrivent jamais parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que comme vous dites,
Quand il arrive, on t'invente des causes, il y a l'histoire de l'offert. L'offert, c'est une guerre judiciaire, ils trouvent toujours une manière. C'est des procès avec des fausses accusations, des longs procès qui ne font que diffamer les bons dirigeants. Ils vont tout faire. Tout faire. Ils ont des équipes qui travaillent dessus pour voir comment ils font. Voilà.
On va faire une pause musicale parce qu'on parle de politique, mais on va revenir sur l'imaginaire après.
Voilà, c'est la bonne réponse.
Alors, ça vient d'où ce matador?
Ben, le matador, c'est l'histoire de El Negro Santillán, que c'était un dirigeant un peu poète des quartiers pauvres, et qui disait « je tue, mais je tue avec des mots ». Et évidemment, ça ne plaît pas ce qu'il dit. Et puis la police le tue dans un guet-apens et crie de balles. Voilà.
Un groupe célèbre argentin, très, très apprécié. Où en est le collectif? C'est la question que nous nous sommes posée dans le dernier Alter Midi Mag, que vous pouvez vous procurer en kiosque. Face à la montée en puissance de l'individualisme dans nos vies quotidiennes, c'est vrai que le collectif peut être la solution à pas mal de problèmes. À condition d'éviter le pouvoir, l'ego, les clans, les politburo spontanés et les narcissismes blessés. Bref, le collectif apparaît une brillante idée, mais comment ça marche? Pour finir l'année 2025 et débuter celle qui arrive du bon pied, notre équipe s'est plongée dans les coulisses du faire ensemble avec humour et quelques ricochets de vérité. C'est quoi le collectif? Peut-on sortir du mythe de l'autonomie et de la performance pour penser l'humain comme relation dans les EHPAD, les hôpitaux psychiatriques, le monde de la création, de l'habitat participatif, en ville et dans le monde rural? Où en est-on du côté du vivre ensemble? On vous en parle dans le dernier mag Alter Midi, pas très loin d'ici, à cause de la selle. Nous sommes allés à la rencontre de Claire Pitot, cofondatrice de l'association Bouillon Cube qui anime La Grange, un tiers-lieu rural où se croisent culture, jeunesse, écologie et lien social. Elle nous a décrit l'agilité de ce collectif qui fonctionne depuis 20 ans et des valeurs qui y sont portées au quotidien. On l'écoute nous parler de la pérennité des financements du service public de ce tiers-lieu dans le contexte budgétaire incertain du moment.
Alors nous, de toute manière, on est dans une habitude de... On dit tout le temps ça, mais en fait, quand on fait des métiers comme ça, on est un peu habitué à la précarité. Et déjà, là, on peut dire qu'on a 2-3 ans de visibilité, c'est déjà beaucoup. Donc en fait, on a tout à fait conscience du contexte compliqué. On essaye de trouver des moyens aussi de ramener de l'argent en fonds propres, en fait, en développant une partie autour des formations, etc. Mais on a tout à fait conscience qu'il y a une partie de notre activité qui est totalement dépendante des financements publics. Et si les financements, on ira jusqu'au bout pour se battre, pour les conserver. Et si les financements publics décident de s'arrêter, de plus soutenir ce type d'initiative comme ce qu'on fait, en fait, on n'aura pas d'autre choix que de s'arrêter. On ne pourra pas demander, les parents des ados cet après-midi qui nous les confient, on a fait une ado devoir là, une partie de l'après-midi, et puis derrière ils vont faire des grands jeux avec leur animateur et tout ça. Je veux dire, on doit avoir 6-7 gamins. On devrait demander, je sais pas, 50 balles par enfant si on voulait payer toutes les charges afférentes. Ça n'est pas possible en fait. Donc s'il n'y a plus de financement public sur ce type de projet, en fait à un moment donné notre responsabilité s'arrêtera là et ça n'existera pas. Enfin, voilà, c'est juste ce qu'on fait, c'est du service public. Et du service public sans argent public, ça va être très compliqué. Donc on est assez clair avec ça. On développe les fonds propres, certes, mais par contre, on va pas faire des choses comme louer des gîtes, transformer la moitié de la grange en gîte, et nous faire des machines, du ménage et laver des draps pour pouvoir payer un animateur d'espace de vie sociale. On va pas non plus marcher sur la tête jusque-là. Donc voilà, on est très tributaire de ça, on le sait, et pour l'instant, on est plutôt en train de faire du lobby et d'être présente sur les réseaux pour se battre, pour que le financement pour le type de lieu comme le nôtre ne disparaisse pas. Au contraire, qu'il y en ait dans chaque village de France, ce serait plutôt ça qui nous ferait rêver.
Vous êtes quand même dans une activité qui s'est développée, qui s'est pérennisée. Et si vous vouliez voir un peu plus loin, vous projetez de nouvelles choses?
S'il y a un élément sur lequel on aimerait travailler, le prochain axe de développement, ce serait la partie vraiment agricole. C'est-à-dire de faire vraiment, en lien évidemment avec la cantine scolaire, d'avoir de plus en plus de choses qui soient produites ici. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire passer dans le dernier PLU pas mal de terres en agricole autour de la grange. Et l'idée, ce serait d'installer des agriculteurs et des agricultrices, notamment de l'élevage. Ce serait ça, la projection à 3-5 ans. Quoi.
J'ai eu l'impression qu'il y avait une volonté de transmettre vos expériences à d'autres chers lieux. Il y a une demande croissante à ce niveau. Et est-ce que vous pensez que c'est un chemin qui est difficile à mener?
Alors, il y a une demande croissante, c'est certain. On fait beaucoup d'accompagnement déjà donc dans le cadre des DLA ou dans le cadre de dispositifs du réseau régional des tiers-lieux, la Rosée. On fait déjà beaucoup d'accompagnement à des initiatives qui veulent se monter. Je pense que oui, ça motive extrêmement des gens. Après, là où c'est très très compliqué, vraiment très très compliqué, le problème, s'il y en a un à citer, c'est l'accès au foncier. On vit dans un monde qui est délirant hein, sur la partie de l'accès au foncier, donc les gens n'arrivent pas déjà à se loger. Mais alors en plus de ça, pour développer des activités qui ne sont pas lucratives, je veux dire déjà pour se loger, pour acheter une maison, les gens qui bossent, qui gagnent un salaire normal à deux, ils n'arrivent pas à acheter une maison. Mais alors en plus, quand c'est un local qu'on veut pour développer des activités qui ne sont pas rémunératrices, en fait c'est complètement délirant. Et tant que les collectivités ne s'engageront pas vraiment là-dedans, et en fait nous c'est là où on peut être utile, c'est encore plus, c'est pas forcément travailler avec les privés, mais c'est travailler vraiment avec les publics, la partie publique, je veux dire, pas les publics, le secteur public, en disant voilà, en faisant parler le maire de notre village, qui peut attester ce que ça peut changer sur un petit village d'avoir un lieu comme la Grange, et dire en fait si vous avez un lieu pas délabré, parce que c'est pareil, ça demande des travaux, mais enfin un lieu à mettre à disposition d'associations qui peuvent faire du lien social dans des villages où il n'y a pas de bar, faire un simili de bar une fois par semaine, faire des activités pour les ados le mercredi après-midi, etc. etc. C'est un vrai enjeu public. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup de gens motivés. L'intérêt et la nécessité de ce type de lieu, pour moi, elle ne fait pas l'ombre d'un doute. Après, il faut qu'il y ait un minimum de moyens et sur le foncier et sur les moyens de fonctionnement derrière. Par contre, c'est certainement un bon moyen de lutter contre l'arrivée du Rassemblement National, pardon, dans les urnes. Enfin, je pense qu'on parle vraiment de location politique quand même avec un grand P quand on est engagé dans ce type d'initiative.
Alors, pour percevoir ce qui est en jeu aujourd'hui dans le mot collectif, la poète Lily Frick, qui fait partie de notre équipe, décide d'aller dans une galerie d'art, un drôle d'endroit terriblement singulier, qui affiche sur sa porte d'entrée « Aux arts et Caetera », collectif d'artistes. L'occasion pour Intermédie d'aller à la rencontre de ceux qui essayent de changer les choses au risque de sortir du cadre. Le sculpteur Jean-François Rigaudin évoque son rapport au collectif. Un extrait des 4 entretiens disponibles en intégralité sur notre site Intermédie.
Le mot collectif était en haut de l'affiche qui présentait ton exposition. Et dans l'incapacité toute seule de rendre compte de ce mot, mais sachant que dedans il y a quelque chose de précieux pour tout le monde, je me suis dit que j'allais venir avec mon téléphone et pour hiatus, demander à l'artiste que tu es et aux autres artistes qui font partie du collectif d'essayer de me dire ce qu'il y a pour eux dans ce mot, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont là à faire cette exposition ensemble et à être un collectif.
Merci Lily déjà de t'intéresser à ce mot qui aujourd'hui plus que jamais revêt une importance pour beaucoup de monde. Souvent l'artiste, pour créer, il est seul.
Oui. Mmh.
Souvent l'artiste, pour exprimer une idée, il va travailler devant son chevalet pour un peintre, derrière son atelier, derrière son établi avec un marteau, un burin, ce qui est mon cas puisque je suis sculpteur, tout seul. Et en fait, il est dans le jeu J-E. Et à travers le collectif, il peut rentrer dans le jeu G-E-U. Il va sortir du soi dans lequel il peut être artiste pour rentrer dans une sorte de rencontre d'altérité avec d'autres artistes. C'est bien ce qui m'intéresse dans la signification, l'adjectif qu'on a collé à notre nom qui s'appelle donc « Aux arts, etc. collectif d'artistes ».
Est-ce que ça veut dire qu'il manque quelque chose au mot « artiste » ou à la création pour toi, puisque tu ajoutes cette dimension, donc collective ?
Oui, dans le sens où avoir un geste artistique et exprimer une forme d'art, en l'occurrence pour moi, une forme d'art qui passe par la sculpture, c'est donner à celui qui va voir mon travail, matière à rêver, matière à réfléchir, matière à imaginer. J'y arrive en m'exprimant tout seul, à 80% de mon temps, c'est-à-dire en créant tout seul dans mon atelier des sculptures, mais j'aime aussi faire des rencontres avec d'autres artistes qui ne pratiquent pas, comme moi, la sculpture, mais plutôt la peinture, et qui, à partir de ce moment-là, ensemble, nous allons créer une œuvre collective, une œuvre dans laquelle ce que j'ai l'habitude de proposer sera enrichi par le regard et par ce que l'autre artiste a osé rajouté sur l'œuvre et a compris de l'œuvre. Donc, c'est pour sortir du moi et aller vers le nous. Je suis extrêmement sensible et perméable au regard, au feedback que mon œuvre procure entre des gens qui la voient, qui la touchent, parce que ce qu'il y a de bien aussi avec une sculpture, et je n'interdis pas aux gens de le faire s'ils le souhaitent, c'est pouvoir la caresser pour en deviner les formes, comprendre la complexité des trois dimensions. On n'est pas sur quelque chose qui est en une seule dimension, à plat. Et donc, ce regard, pour moi, le regard du spectateur, de celui qui vient dans la galerie ou dans l'atelier ou dans la rue, si j'ai la chance, ce qui n'a jamais été mon cas, mais ça pourrait être pour moi un objectif, c'est-à-dire faire quelque chose pour l'espace public, qui donc soit accessible visuellement à toutes les personnes, y compris à celles qui ne sont pas sensibles à l'art. Donc il y a pour moi cette importance du retour d'image, pas de qui est-ce qu'il sculpte bien, non. Est-ce que cette œuvre, comment elle est perçue par ceux qui la regardent. Ce qui m'intéresse dans le travail avec d'autres artistes, c'est que ça ouvre de nouvelles portes. Pour moi, qui ne suis pas coloriste, je ne suis pas peintre. Je suis un bien piètre peintre, si je devais l'être. C'est pas faute d'avoir essayé, mais ça ne marche pas. Je suis sculpteur. Par contre, les peintres avec qui je travaille, je leur laisse carte blanche pour travailler sur mes œuvres. Des fois, j'ai cette chance de leur donner un support, et dans ce support-là, ils vont apporter une autre dimension. Et c'est la dimension finale qui m'intéresse, c'est-à-dire que j'abandonne la surface et je lui dis « tu en fais ce que tu veux ». Et le résultat final sera toujours intéressant pour moi, même si je ne l'apprécie pas ou moins qu'un autre, il sera intéressant parce que si j'ai en général choisi de travailler avec un ou une artiste, c'est parce que je l'apprécie à deux endroits, humainement et artistiquement. Les deux sont terriblement corrélés. C'est ce que le collectif me permet de faire. C'est pour ça que dans notre collectif d'artistes, nous créons des œuvres, comme je dis de façon imagée, à quatre mains, à quatre yeux, à deux regards, à deux intellects, à deux envies, pour créer à la fin quelque chose qui sera singulier, qui sera habité par deux expressions artistiques. C'est le 1 plus 1 qui m'intéresse, comme le 1 plus 2 plus 3, donc le collectif m'intéresse.
On se retrouve sur Radio Escapade en compagnie du marionnettiste et poète Horacio Peralta dans l'émission que nous consacrons aujourd'hui à la politique et à l'imaginaire, qui peut être une façon de lui résister quand on nous cogne sur la tête. L'art de la marionnette convoque l'imaginaire. Le théâtre de marionnettes est un lieu de création et de signification politique où se forment, se renouvellent les représentations et les désirs individuels et collectifs. Rien à voir avec l'imaginaire politique répétitif qui immobilise la société dans des modes rigides d'organisation, comme le mythe de la Grande Russie pour Poutine ou de l'Amérique imposant son modèle de société par la force au monde entier, comme le prône le shérif Trump. Horatio, je ne sais pas vraiment si vous êtes croyant, mais je vous ai vu célébrer des messes. Au centre de ces messes, il y a des dieux de papier mâché, des petites figurines sans ornement assises ou couchées derrière le rideau, placées en ligne, couvertes de linceuls en haillons, qui sont soulevées seulement quand les dieux sont annoncés par leur nom. Il y a la vieille, je crois, il y a aussi Violette, Cactus et bien d'autres qui nous content leurs aventures et nous interpellent. De quel pouvoir sont dotés ces dieux? Vous le savez?
Je serais très, très, très avisé de le savoir. Non, il y a un mystère. Il y a un mystère. Je crois que c'est les mystères, les grands mystères. Ça fait du bien de ne pas les connaître, paraît-il. Et non, les marionnettes, il y a quelque chose, effectivement, qui se passe avec ces bouts animés, inanimés, et qui produit la magie, qui produit l'ange, voilà. Mais je crois que c'est l'art en général qui avec chaque discipline, avec sa particularité, est capable de toucher au plus profond de nos cordes. Parce que je crois à la théorie des cordes, je crois aux vibrations. Non, et on est vibrations, c'est, voilà. Donc je crois que la musique fait partie fondamentale et que les marionnettes sont capables de toucher certaines cordes. On ne s'attend pas. On pense que ces petits bouts de n'importe quoi est incapable de se mouvoir. Par contre, quand on le fait, on est pris de court. Voilà, il y a une émotion, une larme, un rire que sort. Mais je crois que les marionnettes, voilà, c'est une spécificité que remplit bien ce rôle-là, de mouvoir, de toucher, de nous raconter quelque chose au-delà des mots. Mais en général, c'est l'art qui a ce grand rôle.
Ces marionnettes, elles clament leur résistance aux ennemis du ciel et des étoiles. Sans signe d'arrogance, est-ce que ce n'est pas leur force?
C'est ça, oui. C'est qu'elles sont en définitive sont assez humbles. Voilà. Et ça fait que l'effet se multiplie peut-être. Moi, je suis le premier surpris. Hein. J'étais très surpris la première fois que j'ai été face à ces émotions devant les marionnettes. Je le disais au début avec mes copains, mes collègues de théâtre. Et on était tous des comédiens. Déjà, c'était à la fin de nos études. On était déjà des très bons amis. Il y a des très grands comédiens qui sont sortis de cette promotion. Et on était tous surpris. Après, je suis devenu le marionnettiste, je suis retourné en Argentine, ils viennent me voir, et c'est très agréable de voir tous tes collègues très reconnus en tant que comédiens, toujours là, à s'émouvoir avec mes marionnettes.
Alors, vous êtes là, je crois, vous travaillez sur une dernière création qui s'appelle « Mémoire d'un fantôme », une histoire d'amour qui est perturbée par la guerre. Est-ce que vous pourriez nous livrer un petit extrait?
Voilà, je vais essayer de le lire. Donc, il s'agit de « Mémoire d'un fantôme ». C'est un spectacle des marionnettes que je viens d'écrire. Et c'est une histoire d'amour compliquée à travers les temps et au-delà de la mort. Une histoire d'amour à travers les souvenirs romantiques du fantôme de Anna, des souvenirs qu'entre l'humour, la poésie et une guerre, nous conduirons à découvrir depuis leur enfance Joseph le poète et Karl l'insouciant, tous deux profondément amoureux de la belle Anna. Donc, prologue. Un lapin apparaît en sautillant puis disparaît. Entre Karl, enfant, qui sautillant à son tour sur un cheval composé d'un bâton et d'une tête, s'élance dans une course poursuite du lapin. Ses cheveux blonds et lisses, juvéniles, flottent à chaque saut. Il traverse la Seine deux fois. Joseph et Anna, enfants, sont assis à chaque extrémité d'un banc. Leurs pieds n'arrivent pas à toucher le sol. Ils se regardent timidement. Joseph a des beaux cheveux en pétard et tient un bouquet de fleurs. Enfin, il s'approche d'Anna pour lui offrir des fleurs quand entre Karl tenant un lapin par les oreilles et les interrompt. Joseph cache ses fleurs. noir. Scène 1. Joseph, vieux et chauve, debout devant la tombe de Anna, dépose les fleurs. Il s'assoit sur la tombe voisine, il sort un livre de sa poche et lit un poème de Pablo Neruda. Joseph, tu sais comme c'est, si je regarde la lune des cristals, la branche rouge du long automne à ma fenêtre, si je touche près du feu la cendre impalpable ou les corps froissés du bois, tout me ramène à toi. Noir. 102. Musique, lumière nocturne. Derrière la tombe, dans sa cimetière, apparaît le fantôme d'Anna. Elle reste suspendue dans l'air quelques secondes, puis se dirige vers le banc et s'assoit. Fin de la musique. Anna. Chaque jour, il m'apportait des fleurs et me lisait un poème. Un poème différent, chaque jour. Il m'a toujours apporté des fleurs. Il m'a toujours lu de la poésie. Même très jeune, sur ce même banc. Joseph arrivait avec ses beaux cheveux défaits et ses fleurs. Il arrivait toujours avec des fleurs. Et chaque jour, il me lisait un nouveau poème. Changement de lumière. Entre Joseph, offre des fleurs à Anna, sort un livre et commence à lire un poème de Becker. Joseph, ton regard est bleu, et quand tu ris, sa douce clarté me rappelle l'éclat tremblant du matin qui dans la mer se reflète. Entre quart, il arrive en sautant sur un bâton sauteur. Il interrompt le moment, ses cheveux blonds et lisses, juvéniles, flottent à chaque saut. Anna. Je dois dire qu'il y avait Karl aussi. Karl a toujours été là. Chaque fois que Joseph m'apportait des fleurs et me lisait ses poèmes, Karl trouvait une façon de l'interrompre. Il était si drôle, Karl. À cette époque, il courait partout en bâton sauteur. Mais il suffisait un regard de Joseph pour que Karl s'éloigne intimidé. Joseph regarde Karl et lui s'en va intimidé. Joseph continue son poème. Ton regard est bleu et quand tu ris, sa douce clarté me rappelle l'éclat tremblant du matin qui dans la mer se reflète. Ton regard est bleu, et quand tu pleures, ses larmes transparentes me semblent des gouttes de rosée sur une violette. Ton regard est bleu, et si au fond, comme un point de lumière, une idée rayonne, il me semble dans le ciel du soir, une étoile égarée. Anna tousse coquettement et couvre sa bouche avec un mouchoir blanc. Il se regarde et s'approche avec l'intention de s'embrasser, mais le bruit du moteur des avions inquiétante le fait lever les yeux vers le ciel. Une sirène d'alerte commence à retentir à gauche. Tous deux soulèvent le regard vers des avions imaginaires et on entend au loin les bombardements de la ville voisine. Les éclats rougeâtres du rochement du bombardement illumine le visage des amoureux. Anna s'envole vers le ciel et on entend. Et un jour, c'était la guerre.
Un extrait de la dernière création de marionnette d'Horacio Peralta, Mémoire d'un fantôme, et qui conclut magnifiquement notre émission consacrée à la politique et à l'imaginaire. Vos créations sont toujours remplies d'une poésie. Là, on entend Becker, Baudelaire, Neruda. Et on a très envie de la découvrir. Est-ce qu'il y a déjà des dates?
Il y a une date d'une première en Espagne, à Cuenca, le mois de juillet.
Alors, on espère que ça va revenir aussi un petit peu plus
tard. Oui,
près
oui,
d'ici.
Mais surtout, j'espère le tourner. Je vais faire deux versions. Je vais faire une version théâtre, avec des lumières, théâtre. Et je fais une version plus tout-terrain, avec l'idée de toujours, de, comme dans le métro.
D'accord.
Pour pouvoir le faire ici, autour de chez nous, et dans les jardins, même dehors. Voilà.
Nous allons bientôt, j'espère, découvrir la mémoire.
Il y aura le mois de mars, une générale peut-être, ou quelques scènes à Saint-Laurent-le-Minier. Et pour l'anniversaire du jour de, pour le jour de la marionnette, le 21 mars. On va voir si on arrive à faire quelque chose là-dessus.
On prend date. Ainsi s'achève notre escapade du jour. Merci Horacio et j'espère à bientôt pour une prochaine émission. C'était très gentil à vous aussi d'avoir donné cet extrait qui n'est pas si évident. On s'imagine très bien, mais ce n'est pas si évident à faire comme ça sans les petites marionnettes.
Ben merci Jean-Marie. J'étais très content d'être là. Et merci à toi pour l'invitation, évidemment.
On se retrouve le mois prochain sur les ondes de Radio Escapade. D'ici là, vous pouvez suivre notre actu quotidienne interrégionale et méditerranéenne en accès libre sur altermidi.org, vous inscrire sur notre newsletter pour recevoir nos infos et travailler un peu avec le sérieux d'un enfant qui s'amuse, comme disait Borges.